Je vous propose un extrait au sixième chapitre de l'évangile de Matthieu. Donc, Matthieu chapitre 6. Donc, extrait du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, ça fait partie du long premier enseignement de Jésus. Matthieu regroupe les enseignements, les récits de miracles, et l'intercale, donc les chapitres 5 à 7. Donc depuis le chapitre 5, ce que nous appelons le chapitre 5, Jésus enseigne, et il enseigne entre autres sur la prière, et je voudrais lire à partir du verset 5, donc du chapitre 6. Et je vais lire la partie négative. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout, dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Jusqu'ici, la lecture. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. On sent le décalage culturel, hein. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. La première chose que j'apprends de Jésus, en tout cas pour moi, à propos de la prière, c'est ce qu'il ne faut pas faire quand on prie. Ne priez pas comme. Parenthèse, pour la petite histoire, j'ai pas de doute, Jésus ne suit pas les conseils des spécialistes ou des ouvrages de pédagogie positive qui nous invitent à ne pas donner des ordres négatifs. Excusez-moi, qui nous invitent à donner des ordres positifs. Mais bon, qu'ils aillent s'expliquer avec Jésus, c'est fin de parenthèse. La première chose que nous apprenons, c'est que la prière fait l'objet d'une appréciation et d'une critique. Et je trouve ça frappant parce qu'on pourrait dire, mais bon, ma prière, mais ça me regarde. C'est mon problème. La façon dont je prie, ça n'a pas à faire l'objet de jugement. Ça n'a pas à faire l'objet d'appréciation. Pour qui te prends-tu pour juger de ma spiritualité? Et je crois qu'il nous est arrivé à beaucoup de faire cette expérience où quelqu'un s'approche pour nous demander, se risque à s'approcher pour nous demander si nous prions vraiment de manière sérieuse, si vraiment nous avons la foi. Si nous prenons la prière, si nous prenons la lecture de la Bible, si nous prenons la vie communautaire de manière sérieuse, style. Et c'est drôle, mais je suis souvent assis à côté de toi, mais je vois que tu mets jamais d'argent dans la boîte d'offrande. Faut oser quand même, mais bon. Voilà. Style, quelqu'un qui vient vous dire que de son point de vue, mais t'as pas de raison de prendre la scène, toi. Pourquoi tu la prends? T'as pas le droit? Et voyez ce qui se passe en nous quand on nous dit ça. On lui dit pas peut-être, mais ça peut être, mais pour qui il se prend celui-là? Oh! De quel droit critiquer ce qui est le plus intérieur de moi-même, ma spiritualité? Je reviendrai dessus à la fin. Donc là, je parle de Jésus, mais en tout cas, Jésus ne voit pas les choses de cette façon. C'est douloureux à entendre, mais voilà. La prière fait l'objet d'une critique, en tout cas de la part de Jésus. Et je parlerai à la fin de la façon dont nous nous critiquons. Pour le moment, je reste avec Jésus. Et je crois qu'il est bon d'entendre, qu'il nous est bon d'entendre que ma prière, même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, reste ma prière. C'est-à-dire un acte humain. Même si le Saint-Esprit nous habite, ou disons même si nous pensons ou si nous proclamons même que le Saint-Esprit nous habite, il se trouve quand même que c'est nous qui prions. Et que comme tout acte humain, eh bien, nous portons de cet acte une certaine responsabilité. Donc prier, et surtout prier en communauté, a une dimension éthique. Et si par exemple en communauté je prie en faisant comme si j'étais tout seul, par exemple en priant à plein volume, désolé pour ceux qui s'étaient un petit peu assoupis, j'ai un prof comme ça, un prof de philo en semaine qui fait « Alors !» Si je prie à plein volume sonore, j'entends, ou si je prie en agitant beaucoup les bras, eh bien j'affecte les membres de la communauté. Et peut-être que ça vaut le coup de les entendre me dire fraternellement, je vous le fais en mode au début, communication non violente, « Je suis touché par ta ferveur. » En même temps, le Seigneur n'est pas sourd, et moi non plus, et j'apprécierais vraiment de continuer à prier avec toi, si tu pouvais prier juste à volume normal, comme quand on se parle, toi et moi. A contrario, quand quelqu'un se présente ou quand quelqu'un se comporte comme s'il ou elle était un intouchable dans sa vie de piété, parce que lui ou elle, il serait à part, comme s'il n'était plus humain. Peut-être tellement il est ouin, tellement il est spirituel. J'ai envie de dire devant ce texte, alerte rouge. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. La deuxième chose que j'entends dans ce texte, c'est qu'au moment de prier, surtout de manière collective, mais je crois que ça vaut le coup aussi de le faire aussi quand on est seul, avant de prier, c'est comme si Jésus nous invite à regarder à l'intérieur de nous et à prendre conscience de ce qui nous porte, de notre intention. Derrière l'acte de piété que j'accomplis, ici c'est la prière, mais ça pourrait être d'autres actes de piété, je prends juste les passages voisins de l'évangile de Matthieu, ça pourrait être la façon dont nous donnons de l'argent, ça pourrait être la façon dont nous jeûnons, et on pourrait étendre, je crois, à la façon dont nous chantons, la façon dont nous jouons d'un instrument pendant le culte, la façon dont nous proposons des chants, la façon dont ils sont entonnés. Ça peut être aussi derrière la façon même dont je m'habille pour venir à l'église, derrière la façon dont j'interviens pendant le culte, derrière le témoignage que je veux donner. Donc derrière toutes ces expressions de notre foi, de notre piété, j'entends que Jésus nous invite à regarder aussi en nous-mêmes, sur ce qui nous anime au moment où nous posons ces actes. Et ici, la question qui est posée indirectement, et il me semble explicitement quand même, c'est: mais pourquoi est-ce que je prie? Qu'est-ce que je cherche en priant, et en priant de cette façon-là? Qui est-ce que je cherche en priant? Je le dis autrement, c'est l'attention de qui que je cherche. Jésus rend attentif au fait que, à nouveau, que même notre vie de piété est ouverte et exposée à l'ambiguïté, à l'humanité. Entre d'un côté ce qui se donne à voir et à entendre, entre ce que nous donnons aux autres de voir et d'entendre de notre vie de piété, déjà juste en étant présent le dimanche matin, et ensuite en priant, donc déjà entre ce qui se voit, ce que nous donnons à voir d'un côté, et de l'autre côté, avec ce qui se joue réellement à l'intérieur de nous, il peut y avoir, pas forcément, mais il peut y avoir un décalage. Donc j'entends dans ce texte Jésus demander d'une certaine façon, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qui est-ce que tu cherches? C'est de qui que tu veux être entendu? Alors on peut l'illustrer très, très simplement. Qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en ce moment? Qu'est-ce que je fais en commentant l'Écriture? Est-ce que je cherche à vous transmettre l'enseignement biblique pur, je ne vais pas dire pur et dur, mais non, pur et pur, mais on pourrait dire pur et dur. Ou bien, et ce n'est pas forcément exclusif d'ailleurs, est-ce que je suis en train d'espérer que vous vous disiez, ah ce Laurent, qu'est-ce qu'il est, je sais pas, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fin, qu'est-ce qu'il est spirituel, qu'est-ce que c'est génial. Ou je ne sais quelle autre chose de cette veine. Qu'est-ce que je cherche? Et j'aurais beau m'en défendre, dire que je veux prêcher l'Évangile, c'est quand même moi qui suis devant, en ce moment. Et vous, enfin, ou c'est vous qui êtes devant, en fait, devant moi, mais c'est moi qui suis devant vous. Donc. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai votre attention, qui ai votre confiance. C'est moi qui parle, c'est moi, moi. Et annoncer l'Évangile peut très bien se conjuguer pour le meilleur et pour le pire avec justement tout ce qui se joue en moi ou tout ce qui se joue en celui qui a la parole de vous. Et donc avec cultiver son image de soi, par exemple. Alors j'illustre de la même façon, j'élargis. Est-ce que je viens au culte aussi pour montrer ma nouvelle voiture? D'ailleurs vous verrez, elle est au milieu du parking là, celle qui est jolie, hein, la rouge au milieu. La Porsche, là. C'est la mienne. Le Seigneur est bon, merci Seigneur. Hein. C'est la mienne. Est-ce que je viens au culte pour montrer combien ma nouvelle robe est... Enfin, pas la mienne. Mais... Quoique la robe pastorale, mais je ne... Voilà. Combien ma nouvelle coiffure... Vous avez vu ce matin? T'as remarqué? Ah. Combien je suis stylé, combien je sais marier les couleurs de mes vêtements. Est-ce que je viens en culte ou est-ce qu'il m'arrive au culte de prier aussi pour montrer combien je prie bien, dans la bonne tonalité. Alors pas trop fort, pas trop fort, c'est pas bien, mais pas trop bas non plus parce que ça va pas. Et puis alors sans hésitation, je te loue Seigneur du ciel et de la terre, que je ne suis pas comme ces timides qui n'ouvrent jamais la bouche pendant le culte pour prier à haute voix. À se demander s'ils sont chrétiens, toujours. Et puis je prie d'une longueur raisonnable. Je dirais même, avec la bonne intonation, avec la bonne ligne mélodique, c'est-à-dire celle où on a l'impression d'entendre l'onction quand elle est prononcée, celle qui sonne bien dans notre communauté. Je reviens à la question du texte. Qui est-ce que je cherche en priant? C'est l'attention de qui que je cherche? Et ce que je remarque du coup, en reprenant ce texte, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui se tiennent, ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Je remarque du coup une troisième chose, c'est que nous le voulions ou non, le regard des autres compte pour nous, pour chacun d'entre nous. Déjà, on ne peut pas en faire abstraction, on ne peut pas arriver ici les yeux fermés parce que je ne suis pas sûr qu'on arriverait ici. Moi, peut-être en descendant l'escalier, je vais peut-être y arriver parce que j'ai l'habitude, j'habite ici, mais... Le regard des autres impacte la façon dont nous sommes les uns avec les autres et même la façon dont nous posons nos actes de piété. Et là, et que ça nous plaise ou non, c'est juste comme ça. Et nous sommes tous tentés, ou pas forcément tentés, nous sommes peut-être parfois pris dans ce jeu entre l'être, entre ce que nous sommes et le paraître aux yeux des autres. Notamment, bien sûr, dans les gestes collectifs, ou dans des gestes dont on ne sait pas bien s'ils sont ou s'ils vont être collectifs. J'illustre. C'est difficile de chanter assis quand tout le monde se lève. Mais il y a un moment donné, on ne sait pas si on se lève ou on se lève pas. Qu'est-ce que je fais? Si je reste assis parce que j'ai des courbatures, maintenant tout le monde se lève, supposons, sauf moi. Je reste assis parce que j'ai des courbatures. Mais ça fait comme si je faisais de la résistance. Si je me lève pas, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je sais pas comment ça se passe pour vous, hein. Peut-être c'est juste dans ma tête, moi, que les choses se passent, là, ou ce que j'ai entendu. Et inversement, c'est très difficile de se lever quand tout le monde reste assis pendant un chant. Même si on a des courbatures et qu'on veut changer de position. Donc il y a, voilà, là il n'y a pas d'enjeu de double jeu, hein, mais il y a, que nous le voulions ou non, il me semble, une espèce de pression à la conformité, même quand le groupe ne fait sentir aucune pression et ne veut faire sentir aucune pression. Ça peut juste se jouer à l'intérieur de nous. C'est moi qui me dis, ah, il faut absolument que je fasse comme tout le monde, sinon ça va faire désordre. Et si, pour illustrer, au niveau de l'offrande, si j'ai le malheur au niveau de l'offrande, quand les boîtes vont circuler tout à l'heure, de me trouver entre deux personnes qui ont chacun une grosse liasse de billets de 500 euros, et que vous êtes là avec vos centimes, on se sent peut-être pas toujours bien. Intérieurement, il y a une voix qui nous dit, non mais, t'as pas honte, quand même. Et puis c'est évidemment encore pire quand quelqu'un devant nous dit que voilà ce que le vrai chrétien devrait faire. Il devrait arriver avec une liasse de 500 euros, par exemple. Mais ça peut être, il nous invite à chanter, à prier à haute voix. Voilà ce que le vrai chrétien doit faire. Alors je suis dans le domaine religieux parce que nous y sommes, parce que Jésus est dans ce domaine. Mais j'ai envie de dire que ça n'a rien de religieux. D'ailleurs, c'est très difficile d'être soi-même dans un groupe. On n'a pas besoin d'église pour ça. Vous êtes avec trois amis. Et puis il lance, allez, si on allait prendre un pot maintenant. Ou bien si on allait se faire un ciné, une pizza. Et alors, mais vraiment, vous n'avez aucune envie, mais aucune envie d'aller prendre un pot. Vous venez de manger, vous êtes rempli. Encore moins de voir un film. Et la pizza, vous avez la nausée rien que d'y penser. Mais les trois sont enthousiastes, et c'est la chouette, hein. Et vous n'avez pas cassé l'ambiance. Ils vont penser quoi de vous si vous cassez l'ambiance? Le regard des autres, il habite nos choix. Je fais une parenthèse, mais c'est rigolo. Il y a une dimension culturelle dans cette affaire. On a fait un test aux États-Unis. C'était quatre étudiants qui allaient dans un bar. On leur proposait quatre boissons. Et le premier choisissait la boisson 1. Et que choisissent les autres? Le deuxième choisissait une boisson 2. Le troisième une boisson 3. Et le quatrième une boisson 4. Parce que l'idéal, c'est de ne pas faire comme les autres. Même chose en Orient, apparemment. Donc, le premier choisit la boisson 1, le deuxième choisit la boisson 1, le troisième choisit la boisson 1, et le quatrième choisit la boisson 1. Parce que culturellement, ce qui compte, c'est d'être comme les autres. Regardez ce acte noir, refasse notre pied même et notre onde d'expiété. Et c'est un constat, je crois que j'ai envie de dire, c'est étonnant, c'est quelque chose de grand dans cette. Parce que nous n'avons pas eu. C'est une bonne, je crois, regard. Dans une certaine mesure. Parce que pendant que je commence à sortir pour être heureux, Seigneur, au point que tu les mets. C'est un peu impuré, élan, amiable. Ça n'a pas peur en fils. Non, que des autres. Ça nourrit le reste des autres. Dans notre reste, la difficulté que les personnes dont on parle, ces personnes tiennent à être qui pardon. Et la difficulté vient de là. Et c'est pour Jésus, il est tendre. Il parle d'hypocrisie. Parce qu'il y a l'âge maximum. Ce qui est exprimé, c'est tout. Ce que ce qui est voudrait, c'est l'aspect de l'attention et la motion intérieure est tout à fait dite. Ces personnes qui. Tout à toi, Seigneur, je suis tout à toi, alors qu'en fait, je suis tout à moi. Je dis, je Seigneur, et je vis, je m'aime, Seigneur. Je qu'on m'aime, Seigneur. Et ça peut s'entendre en même temps. Mais voilà, c'est le dire devant les autres à Dieu. Et la difficulté, là c'est assez simple, hein. Mais la difficulté évidemment c'est que souvent les deux vont ensemble. Mon désir de Dieu et mon désir des autres. Et lorsque nous nous rencontrons en ce moment, nous exprimons notre désir de Dieu et en même temps nous sommes les uns avec les autres et ces choses-là jouent entre nous. Quoi qu'il en soit, quand tu veux prier, regarde à l'intérieur de toi. Regarde ce qui est en train de se jouer pour toi. Je ne crois pas que Jésus interdise une prière collective, une prière communautaire. Je crois qu'il nous invite à une conversation, à une relation qui soit une vraie relation avec Dieu, aussi vraie que possible. J'ai envie de dire, rien ne t'oblige à prier. Rien ne t'oblige à donner dans la boîte des offrandes, par exemple. Mais si tu veux prier, alors prie, mais vraiment. Donne-toi les moyens de lutter contre les tentations qui t'habitent de l'intérieur, les tentations d'être admiré, d'être apprécié, de faire l'objet des conversations. Oh, t'as entendu, quand il a prié, c'était vraiment trop beau, trop fort. Qu'est-ce qu'il prie bien ? Quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. La méthode est radicale, hein, je pense. Jésus dit, si ton oreille est une occasion de chute ou d'autres parties du corps, tu l'arraches. Et là, c'est un peu le même style, en moins gore, si je peux employer ce langage, moins violent, mais c'est ça. Si tu es en prise avec ça en toi, retire-toi. Là. Il y a quelque chose à régler avant de continuer. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car Dieu sait, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Alors j'ai déjà dit en étude biblique il y a une dizaine de jours ce que j'entends dans ce texte. C'est pas que Jésus condamne le fait de répéter, hein, la traduction habituelle, les vaines redites. Je crois que le problème ici n'est pas tant la redite, n'est pas tant le fait de répéter, ou même de reprendre une prière qui serait déjà écrite, par exemple. Je pense que c'est pas ça le problème. Et qu'il faut éclairer la première partie de la phrase par la deuxième partie. C'est encore la motivation de notre prière. Ou plutôt la perspective qui me fait prier. Je vais le dire autrement. Ne rabâchez pas des tas de paroles comme le font les païens, parce qu'ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Donc ce qui est interrogé ici, ce qui est en cause ici, c'est ce que je crois de Dieu. C'est l'image que j'ai de lui, que je me fais de lui, et c'est l'image que je me fais de ma prière, de la puissance de ma prière. De la façon dont ma prière va être efficace, va mettre Dieu en mouvement, hein, au bout du compte. Donc c'est l'image que je me fais de ma prière. Donc qu'est-ce que je crois que je suis en train de faire lorsque je prie ? Et j'ai envie de dire que ce que Jésus me semble contester ici, c'est la pensée magique. C'est-à-dire bien, l'idée d'un rapport à Dieu qui serait de l'ordre du mécanique. Ça pourrait être l'idée, vraisemblablement, qu'en faisant le rite de façon précise, méticuleuse, pointilleuse, exacte, millimétrée, alors Dieu, ben, il ne pourra pas faire grand-chose d'autre que m'exaucer. On a fait tellement bien. On a fait exactement ce qu'il demandait. Ça pourrait être, en exagérant, de penser que par ma prière, je vais épater Dieu. Waouh ! Purée, il y a longtemps que je n'avais pas entendu quelqu'un qui priait comme ça. C'est l'idée, en tout cas, qu'en insistant, par le fait même d'insister, de dire, de redire, de redire, alors Dieu, à un moment donné, ne pourra pas faire autrement que voir que j'ai la foi, hein, que j'ai assez de foi, que j'aime même beaucoup de foi, et qu'il ne pourra pas faire autrement que m'exaucer. À force de prière, Dieu va entendre, Dieu va exaucer, c'est forcé. D'ailleurs, Jésus lui-même n'invite-t-il pas dans un autre passage à insister ? Mais là où ça devient problématique, à mon sens, c'est de quand j'en arrive à penser que j'ai de la prise sur Dieu, que j'ai de la force sur Dieu, la force de ma parole répétée, et d'en arriver à croire qu'il y a un moment où Dieu ne peut pas faire autre chose que de m'exaucer. Et j'ai envie de dire comme si Dieu n'était pas une personne. Déjà, essayer avec une autre personne, enfin, donc il y a des personnes qui, à force d'assistance, ça va le faire, mais à l'autre, c'est bon, quoi. J'ai dit non. Et je crois que Jésus nous demande, enfin, on interroge, mais dans quel fantasme est-ce que nous sommes ? La prière est-elle vraiment un moyen de pression sur Dieu ? Un moyen surtout de pression mécanique sur Dieu. Au bout d'une certaine quantité de prières, comme un peu comme une machine à sous, toutes les lumières vont s'allumer et le jackpot va arriver. Bref, c'est un Dieu que nous pouvons manipuler. C'est là le problème, c'est là l'image qui me paraît problématique. Alors il faut juste s'investir, peut-être s'investir beaucoup, hein, tout le monde n'est peut-être pas prêt là-dedans, mais appliquer la recette. Et je crois que Jésus nous dit, ne crois pas ça de ta prière. Ne crois pas ça de Dieu. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Je trouve que ces phrases qui closent, c'est ça ? Le verbe clore, bon bref, qui closent cette section négative, je les trouve très, très paradoxales et en même temps très, très bienfaisantes. Je l'ai déjà dit, je crois aussi, mais dans le cadre de l'étude biblique sur la prière. Pour ma part, elle me donne à entendre combien ce Dieu à qui je m'adresse, à qui nous nous adressons, m'échappe vraiment. Je vais m'expliquer. Et que j'ai énormément de mal à comprendre Dieu. Ce que nous lisons en effet, ne prie pas des heures et des heures, pas la peine d'en faire des tonnes, Dieu sait ce qu'il te faut avant que tu lui demandes. Et je trouve ça déroutant parce que cette expression, c'est exactement l'objection contemporaine et puis sans doute ancienne, courante et logique à la prière. Mais ça sert à quoi de prier ? Parce que Dieu sait déjà ce dont on a besoin. Donc ça sert à quoi ? Moi, si tu me dis déjà, si tu viens me dire quelque chose que je sais déjà, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. Ça serait ma façon de réagir. Et Jésus nous dit, c'était, je trouve étonnant. Et voilà, ça échappe à ma logique. Oui, Dieu sait ce dont tu as besoin. Alors prie. Alors moi, j'attendrais, ah ben alors ne prie pas, c'est pas la peine, ne te fatigue pas, il est déjà au courant. Mais non, c'est pas ça. Dieu sait ce dont tu as besoin, alors prie. J'ai du mal à comprendre cette logique, j'ai du mal à comprendre ce Dieu qui m'invite à dire ce qu'il sait déjà. Et je dis, ce Dieu-là, il m'échappe. Et c'est même quelque chose de tout simple, là, on n'est pas en train de dire la Trinité, comment ça s'organise, machin, etc. Non, non, juste. Prie, Dieu sait ce qu'il te faut avant que tu lui demandes. Ce Dieu, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas l'importance que ma prière a pour lui. Je ne comprends pas comment ma prière joue pour lui. Mais ce que je comprends, c'est qu'il m'invite à prier. Et ce qui me touche au cœur de cette relation de prière et que j'entends dans ce verset, c'est son attention et son souci pour moi. Mon Père sait ce qu'il me faut. En terminant, je reviens sur ce que je disais au début. Je crois qu'il n'est probablement pas superflu de dire qu'il est très facile, donc on a une position d'une appréciation sur la prière. Il est très facile, il est très tentant, en écoutant ces paroles d'appréciation, de nous aussi porter une appréciation, un diagnostic sur la prière et sur la piété des autres. On ne voit pas la réunion de prière, sans doute c'est parce que la prière n'est pas importante pour lui, pour elle, pas aussi importante qu'elle devrait l'être. Ah, il prie fort pendant le culte. C'est qu'il veut se faire valoir, il veut se faire voir. Et puis, ou bien il ne dit rien. Mais comment on peut rester silencieux devant les textes qu'on a lus ? Et vous prolongerez. Ah, il fait telle ou telle chose qu'il ne devrait pas faire. Ou bien il ne fait pas telle chose qu'il devrait faire. Je crois que chacun d'entre nous, on est dans des moments comme ça où on regarde l'autre et puis on se dit des choses à son propos. Et c'est difficile de faire autrement, parfois. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce à quoi Jésus nous invite ici, c'est à faire retour sur nous-mêmes. Je crois que s'il nous adresse ces paroles, c'est d'abord pour que nous les entendions pour nous. Et ce diagnostic d'hypocrisie que Jésus place, je crois que Jésus est bien placé pour le poser, parce qu'il sait ce qui se passe à l'intérieur. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, le plus souvent, en tout cas, j'ai envie de dire, je ne le peux pas. Je ne peux pas poser le diagnostic. Et au moment où je suis tenté de le poser, et ça m'arrive régulièrement, il y a quelque chose en moi qui décide de dire non. Je ne peux pas, je ne sais pas ce qui se passe pour l'autre. Je ne sais pas ce qui motive l'autre. Je ne sais pas s'il ne me le dit pas. Je ne sais rien des images qu'il a de Dieu. Et à moins de lui poser la question, je ne le saurais pas, et à moins qu'il me, aussi qu'il me réponde, qu'il ne fera peut-être pas. Tout ce que je peux faire, enfin, le minimum de ce que je peux faire, c'est entendre l'enseignement de Jésus. Et c'est relayer cet enseignement, rappeler cet enseignement. Et ce dont je suis sûr, c'est que cet enseignement, j'ai à l'entendre pour moi, pour mon âme. Et il me dit, où est-ce que tu es quand tu pries? Au moment où tu veux prier, arrête-toi, regarde, essaie de regarder ce qui t'habite. Et je pense que c'est pas si simple que ça. Essaie de regarder ce que tu imagines de Dieu, ce que tu imagines à propos de ta prière. Entends l'effet du regard des autres sur toi. Et fais en sorte, lorsque tu veux prier, de vraiment prier. Et s'il le faut, si c'est nécessaire, eh bien prends des mesures radicales pour aller dans le sens d'une vraie parole dite à Dieu. Éloigne-toi, enfin reste silencieux, je ne sais pas. Mais, voilà, éloigne-toi, va dans un endroit secret et prie. J'ai envie de dire, si tu découvrais en toi des choses que tu aurais peur d'avouer aux autres, ou des choses qui seraient peut-être difficiles d'avouer, même si on peut s'entendre, hein, ça peut être ce besoin d'attention, ce besoin d'affection qui nous habite, ce besoin de reconnaissance qui nous habite. J'ai envie de dire, alors va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte, adresse-toi à ce Dieu et Père qui est là dans le secret, qui sait déjà tout de toi, qui t'accueille tel que tu es, parce que sache que dans ce lieu-là, à ce Dieu et Père qui sait ce qu'il te faut, tu peux dire ce besoin incompressible d'être reconnu, d'être admiré, si c'est ça qui t'habite. Tu peux lui dire tout ça. À lui, tu peux dire peut-être ta frustration de te voir si médiocre, de n'en être que là, dans ta vie spirituelle. Et à nous tous, il nous dit qu'il est prêt à prendre soin de nous, il nous invite à prier, justement, parce qu'il sait déjà ce qu'il nous faut avant que nous lui demandions. Je t'invite à un moment de silence.